Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Les patrons la redoutaient et Maurice Duplessis lui vouait une haine féroce. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Madeleine Parent, féministe, syndicaliste et militante.
Je pense que la grève de la chute a été une autre des leçons que les travailleurs peuvent tirer. D'abord, de la façon dont certains politiciens sont simplement les serviteurs des patrons, et de la façon dont les travailleurs eux-mêmes doivent s'organiser, et non seulement s'organiser pour lutter, mais il doit y avoir de la solidarité entre différents groupes de travailleurs.
Les propos de Madeleine Parent le 14 juillet 1974 à notre radio. Au premier abord, rien ne la destinait au syndicalisme. Issue d'une famille bourgeoise, elle n'a jamais travaillé dans une usine et parle une langue châtiée que même les religieuses ne pourraient corriger. Mais de ses séjours au couvent, elle garde le souvenir des injustices et des traitements de faveur accordés selon les origines et le statut. Très vite, à l'université, elle découvre le militantisme et s'investit à fond dans les luttes syndicales. Toujours au front, Madeleine Parent est de toutes les grandes grèves, malgré les menaces et des procès.
On voit ici sur l'écran, Madame Parent, une feuille de salaire.
C'est une ouvrière du moulin de Saint-Henri qu'on appelait Merchant's Mills de la Dominion Textile et qui gagnait 27 cents de l'heure. On travaillait 50 et 55 heures par semaine, soit 10 heures le jour et le samedi 5 heures, 10 ou 11 heures la nuit, et quelques hommes travaillaient jusqu'à 12 heures la nuit. Et quand nous avons commencé à organiser, on gagnait 18 cents, 20 cents, 25 cents de l'heure chez les jeunes filles et les enfants. Et on travaillait le samedi, il n'y avait pas de boni pour temps supplémentaire, aucune fête payée, aucune vacances payée. Et le plus triste pour les femmes, c'est que quand on devait quitter pour avoir un enfant, on revenait sur le marché de travail comme une nouvelle, au bas de l'échelle, on n'avait aucune sécurité, aucun droit à son emploi.
Madeleine Parent, au sujet de la grève à la Dominion Textile de 1946, était lors d'une entrevue à notre télé « Femme d'aujourd'hui » au mois de mai 1975. Ah, pour nous parler de cette grande dame des luttes féministes, mon invitée Yolande Cohen, elle est historienne, professeure à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
On a entendu dans l'extrait la façon de parler, cette langue châtiée, les R roulés de la bonne manière, comme faisaient les grands bourgeois à l'époque. Et c'est vrai que c'est pas l'image exactement qu'on se fait d'une militante syndicaliste, Madeleine Parent.
En effet, elle n'était pas vraiment destinée à devenir une militante syndicale. Elle a une éducation dans des écoles d'élite et elle a choisi, avec sans doute l'accord de ses parents, d'entrer dans des écoles vraiment peu accessibles en général aux Canadiens français, en particulier l'école Trafalgar, où elle va se préparer à entrer ensuite à l'université McGill. Donc, elle est anglophone. Elle choisit d'étudier en anglais alors qu'elle vient, en effet, comme vous le disiez, d'une famille francophone, canadienne-française, peut-être moyenne bourgeoisie, on dirait des classes moyennes. Son père est comptable. Sa mère est sans doute une dame qui doit jouer du piano et qui est assez libérale. Et c'est leurs idées libérales, je pense, qu'ils ont dû transmettre à Madeleine, qui, elle, veut s'en aller, en effet, faire des études de sociologie. Sociologie à McGill, assez extraordinaire, après qu'elle ait eu, comme vous disiez, une éducation chez les sœurs. Et donc, c'est là, en sociologie, à McGill, dans cette université très conservatrice, qu'elle va frayer avec des penseurs progressistes et qui vont l'initier à la pensée critique. On n'appelait pas ça encore comme ça, qui lui font connaître, en fait, un autre monde que le sien. Et je pense que son engagement syndical va commencer précisément à McGill, où elle va militer dans des organisations étudiantes. Et elle va vraiment rencontrer peut-être ce petit groupe de militants, soit communistes, soit sociodémocrates, soit chrétiens-démocrates. On ne les appelait pas comme ça, mais qui vraiment réfléchissent à la façon dont la société québécoise peut évoluer.
Oui, dans les années 30, c'est quand même assez avant-gardiste.
Mais extraordinaire.
Déjà, on est à l'université, mais moi, je reviens un petit peu avant, parce que dans sa jeunesse, bon, vous l'avez dit, famille bourgeoise, famille aisée, grandit devant le parc La Fontaine. Oui. Puis bon, à l'époque, comme francophone, elle fréquente des établissements gérés, bien sûr, on est dans les années 20 à ce moment-là, gérés par des religieuses. Et très vite, elle découvre les injustices au couvent. D'ailleurs, elle déteste la vie avec les religieuses. On va l'écouter se confier justement au micro de Michel Desautels.
Oui.
C'était le 19 mai 1974.
Le choc de la première journée au couvent a été très dur pour moi. Je quittais une famille où j'étais très, très bien, en toute sécurité, aux idées assez libérales, assez avancées. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à l'âge de 6 ans à l'intérieur d'un cloître, soit à Saint-Louis-de-Gonzague, à Montréal. Il me semblait que tout d'un coup, on m'envoyait au Moyen-Âge et de Alice au pays des merveilles chez nous, je tombais dans un monde d'horreur que je ne pouvais pas du tout accepter. Après quelques nuits au dortoir, j'en ai été tellement malade qu'on a été obligé de me renvoyer chez nous. Et j'ai été malade ainsi pendant des mois, de sorte qu'à l'automne suivant, à l'âge de 7 ans, on m'a envoyée à l'Académie Saint-Urbain comme externe, où j'ai été pendant plusieurs années. Du moins, je pouvais vivre chez nous avec ma famille. À ce temps-là, je ne connaissais pas d'école où il n'y avait pas de religieuses. Et je n'acceptais pas leur système, je n'acceptais pas leurs idées, et je voulais absolument en sortir.
Quand même, ça dénote une certaine assurance, déjà très, très jeune,
puis
une conviction. Puis c'est d'ailleurs ça, vous l'avez dit, qui va l'inciter à s'inscrire dans des établissements anglophones, à l'Université McGill en 1936, pour, dit-elle, éviter d'avoir à étudier dans un couvent classique avec des religieuses. Donc c'est ce
absolument,
choix.
Oui.
Mais vous l'avez dit aussi, une université assez conservatrice, on est dans le monde anglophone des années 30. Mais c'est à McGill qu'elle va faire une rencontre déterminante, Léa Robach, qui va l'initier au syndicalisme. Parlez-moi d'elle, de Léa Robach. Comment elle se rencontre?
Elle se rencontre lors d'une assemblée de la Ligue des droits civils. Madeleine y est et Léa Robach demande à la rencontrer. Et elle est de 15 ans son aînée et elle est une militante communiste et syndicaliste déjà très connue. Elle a raconté, Madeleine, plusieurs fois sa rencontre avec Léa. Quand Léa lui demande ce qu'elle compte faire à sa sortie de l'université, Madeleine, qui connaît bien la réputation de militante syndicale de Léa, qui a été une des figures de proue de la grève des midinettes en 37, va lui dire, Madeleine dit à Léa, je voudrais être comme toi. Mmh. Alors finalement, c'est vraiment une rupture avec son milieu, une rupture avec sa classe un peu, et elle entre dans ce milieu syndical par la porte du militantisme syndicaliste. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que déjà à McGill, il n'y a pas beaucoup de femmes.
Mmh. Elles ne sont pas très nombreuses.
Ouais. Et elle est tout de suite attirée par ces aspects un peu critiques. Et Léa, c'est vraiment ça pour elle. C'est une figure à la fois qui a déjà rompu le cadre habituel et qui est déjà une militante, elle, affirmée. Mmh. Et donc, en la prenant comme modèle, elle rentre dans la voie qui est tracée pour elle. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de modèles au Canada français, en français.
Oui.
Alors donc, de syndicalistes femmes.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment assez extraordinaire qu'elle puisse, comme ça, entrer dans le monde anglophone, du syndicalisme anglophone, et elle va apporter cette expérience-là particulière dans le monde francophone et dans les grèves, parce qu'elle devient sa première job, si j'ose dire, c'est qu'elle rentre au Conseil des métiers du travail de Montréal, où elle devient secrétaire. C'est son premier emploi.
Oui,
alors, pour
une
jeune femme qui vient de quitter cette prestigieuse université avec son baccalauréat en sociologie, c'est assez étonnant.
Oui, tout à fait. Puis bon, on va l'écouter justement nous parler de celle qui a eu une influence déterminante, celle qui va devenir sa grande amie, Léa Robach, à l'émission Montréal Express, c'était au mois d'août 2000.
Belle, svelte, très intelligente, polyglotte, et qui était de tous les combats pour la justice. Je l'ai connue dans les dernières années 1930, alors que j'étais étudiante activiste, et
c'est à son contact, sans qu'elle me sollicite, que j'ai décidé d'être organisatrice syndicale, surtout là où il y aurait des ouvrières. Elle a eu un effet d'entraînement pour moi.
Et commence alors, ben oui, une vie consacrée aux luttes syndicales avec celui aussi qui plus tard va devenir son mari, hein, Kent Rowley. Ils vont former tous les deux un couple redouté, hein, de la part des autorités. Mais qu'est-ce qui l'amène à s'intéresser aux travailleuses du textile?
Oui, c'est vraiment assez extraordinaire parce que, en fait, quand elle devient membre du Conseil des métiers du travail, elle rencontre aussi Kent Rowley. Mm-hmm. Elle est déjà mariée. Elle s'est mariée peu de temps avant avec une personne qui va disparaître rapidement de sa vie. Quand elle rencontre en 1942 Kent Rowley, qui a une fiche assez impressionnante, déjà, il est très jeune et il vient de sortir de 2 ans d'internement au camp de Petawawa pour s'être opposé à l'enregistrement obligatoire des citoyens imposé par Ottawa, parce qu'il est contre la conscription, commence avec lui une collaboration extraordinaire qui va durer jusqu'à 1978, la date où Rowley meurt. Et donc, les deux s'encouragent mutuellement et travaillent ensemble, à organiser peut-être les usines qui sont les moins bien syndiquées, parce que le textile, qui est dominé par la Dominion Textile, qui couvre à peu près 60% de l'industrie textile au Québec, est totalement anti-syndicaliste. Et donc, à la faveur de la guerre, où là, la possibilité d'avoir des organisations syndicales arrive, eh bien, ils en profitent pour devenir des activistes et devenir, on l'a entendu tout à l'heure, les héros de la cause des ouvrières du textile, en particulier les ouvrières, parce que le textile est en majorité occupé par des ouvrières. Et donc, vont tenter de syndiquer ces milliers de travailleurs à Valleyfield, mais pas seulement, également dans les autres endroits où l'usine Merchants de Saint-Henri, par exemple, dont elle parlait dans l'entrevue. Oui. Et donc, ce militantisme syndical est très difficile parce qu'on exige d'eux d'avoir des votes, que les ouvriers votent en faveur de ce syndicat plutôt qu'en faveur de l'association qui est proposée par Dominion Textile, qui est une association maison et qui, justement, tente de refuser ou de garder les ouvriers sous le contrôle de l'entreprise. Et comme on l'a entendu, les conditions salariales sont très mauvaises. Le syndicat est vraiment très nécessaire dans ces organisations. Et ils vont être extrêmement, courageux, parce que c'est un travail de tous les instants. Et les deux s'y mettent, mais c'est elle, Madeleine Parent, qui va commencer dès 1942 à tenter de recruter la majorité des 3300 ouvriers qui sont à Valleyfield.
Et elle sera d'ailleurs de la grève de, bon, vous dites dès 1942, donc on prépare en 1946 une grève importante. Absolument. À la Dominion Textile, oui. Puis l'année suivante à La Chute en 1947, oui. Donc des grèves extrêmement dures. Qu'est-ce qu'elle, parce que j'en viens à elle, la petite bourgeoise, qu'est-ce qu'elle retient de tout ça? Avoir ces ouvrières, ces conditions-là, pas faciles, des enfants aussi qui travaillaient dans ces usines. Hein?
Absolument. Je pense que comme militante syndicale, comme on l'a entendu, elle est très sensible à l'injustice. Mmh. À l'injustice sociale, mais aussi à la discrimination. Elle en parle dans l'entrevue. Elle dit, les ouvrières avaient des salaires des fois bien inférieurs. Oui. Les conditions de travail pour elle et pour les enfants étaient affreuses. Et donc, je crois qu'elle en retire une très grande force. Parce que c'est elle qui a réussi à les syndiquer. Et pendant 4 ans, il y a des négociations de 1942 à 1946, période pendant laquelle on est quand même en pleine guerre, et où le mouvement syndical va se retrouver un peu abandonné pendant dès 1946-1947 avec la guerre froide, et où ils vont se faire traiter par Duplessis de communistes et d'agitateurs communistes. Ce qui fait qu'elle retire vraiment une très grande force, je crois, intérieure, qui lui permet de se battre, parce que le couple Rowley-Parent acquiert une renommée relativement importante à cause de leur position très forte dans ces grèves. Et elles obtiennent gain de cause. Finalement, la Dominion Textile reconnaît le syndicat, pas le syndicat maison, mais le syndicat qui a été créé par Madeleine Parent. Donc c'est une grande victoire pour le prolétariat, comme on peut dire.
Oui,
et pour elle, Alors, ça lui donne une espèce d'assise militante qui fait qu'elle a gagné ses galons. Elle n'a jamais été ouvrière, mais elle a gagné ses galons de militante syndicale. Et en ce sens, c'est très important.
Oui, malgré les attaques répétées de la dominante textile, hein, qui ne voulait pas de ce syndicat. On va l'écouter nous en parler. C'était à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en mai 1973.
Eugène Debs, un des grands chefs ouvriers américains au tournant du siècle, disait qu'une grève n'est jamais perdue. Voulant dire qu'on apprend toujours des leçons par une grève et que, même si on ne la gagne pas officiellement, il en sort quelque chose à l'avantage des travailleurs. C'est clair que quelquefois, nous rencontrons des obstacles énormes et que nous ne pouvons pas surmonter. Quant à nous, la grève de 46, à laquelle nous nous préparions depuis 45 par des exercices, des grèves au ralenti, des grèves d'absence répétées, des grèves de la grippe, enfin, toutes sortes d'exercices durant lesquels nos gens se sont aguerris pour la grande grève qui a eu lieu en 1946 dans les usines de Montréal et de Valleyfield où il y avait 6 000 travailleurs du textile coton.
Quel était en fait l'enjeu de cette grève?
C'était pour une première convention collective dans les usines. Et la compagnie Dominion Textile, tout le long du chemin, tentait soit de se débarrasser des militants, d'en congédier, de combattre ces gens et de les affaiblir et de casser le syndicat.
Oui, casser le syndicat, casser aussi les militants, dont Madeleine Parent et son mari, qui seront poursuivis, emprisonnés dans le cas de son mari. Pourquoi Maurice Duplessis la détestait tant?
Il va vraiment la diaboliser.
Oui.
C'est une femme qu'il va poursuivre sans relâche et c'est comme une vendetta personnelle parce qu'elle lui tient tête. Elle est vraiment une femme, comme on voit, très posée et qui pourtant lui dit non. Et donc, dans cette croisade anticommuniste qui est menée par Duplessis et le cardinal Villeneuve, ils associent désormais le couple notoire qui est devenu maintenant bien connu, au Parti communiste. Et c'est cette bataille-là, ça va très loin. Madeleine, qui compte des ancêtres gaspésiens, est accusée d'être une espionne soviétique, échouée sur les rives de la Gaspésie, etc. Et donc, en carrière, elle subit 5 arrestations au total et 7 condamnations pour conspiration séditieuse. C'est beaucoup. Mmh. Elle est vraiment poursuivie, pourchassée, identifiée comme le mal qui détourne les ouvriers du droit chemin, etc. Et donc, c'est sur ces entrefaites, finalement, qu'elle va voir, parce qu'elle parle dans l'entrevue, c'est très intéressant, de toutes les forces qui s'opposent à eux. Il y a Duplessis, mais il y a aussi les organisations syndicales américaines qui sont un peu corrompues, disons-le, et qui sont prêtes à passer des accords avec les patrons. Et elle se sent, en 52, après une autre grève à Valleyfield, elle n'a pas l'appui de la centrale américaine et c'est à ce moment-là qu'elle est expulsée et elle se sent trahie et elle va, avec Rollet encore une fois, développer ou déployer un syndicalisme indépendant, ce qui est une première, là encore, au Canada et au Québec certainement.
Oui, oui. D'ailleurs, elle va quitter le Québec, elle va aller le rejoindre en Ontario.
Elle le rejoint en Ontario.
Le Canada pour établir comme ça des organisations locales sans l'influence des grands syndicats américains parce que c'est vrai, puis il faut se rappeler le contexte de l'époque, se faire qualifier de communiste et autres, même chez les syndicalistes américains. Disons que ça fait peur à certains. On va l'écouter à ce sujet, justement, Madeleine Parent, c'est tiré du documentaire, fameux documentaire de Denis Arcand, On est au coton, produit par l'ONF en 1970.
Révolte, rébellion, sédition, communisme, anarchisme, enfin tout, on essayait de produire devant le public tous les démons populaires pour essayer de dire que c'était ça. L'organisation des travailleurs à la chute.
Voilà, et ça fonctionnait en partie parce que vous l'avez dit, elle va quitter donc en 1952, quitter même le Québec, parcourir le Canada pour créer des syndicats locaux indépendants des Américains. Et puis, elle va revenir au Québec à la fin des années 70, quand justement Kent Rowley meurt en 1978. Oui. Et là, elle va poursuivre son militantisme peut-être de façon un peu différente, notamment auprès des Autochtones et des immigrants.
Oui. Extraordinaire. Elle est membre fondatrice du Comité national canadien d'action sur le statut de la femme, qui est un endroit où elle découvre justement l'importance de la lutte pour les droits des femmes et où elle rencontre une militante autochtone très importante, Mary Two Axe Early, qui est venue demander au Comité canadien d'action sur le statut des femmes l'appui de ce comité pour la cause autochtone. Elles veulent, et Madeleine Parent l'appuie, elle veut s'élever contre l'injustice de la loi fédérale sur les Indiens qui excluait les femmes autochtones qui épousaient un non-Indien ou un métis. Après plusieurs années de batailles très importantes pour amender cette loi, où elle réclame d'abord l'application d'une règle de 3/4 de sang indien, voyez, c'est vraiment compliqué, hein, permettant à toute personne, homme ou femme, dont 3 grands-parents sur 4 étaient autochtones, à revendiquer le statut d'Indien, puis finalement, elles arrivent à une proposition plus inclusive, eh bien, elles réussissent par cette solidarité dont elle parle souvent entre femmes, mais aussi entre femmes de différentes catégories, elles obtiennent un changement très important à la loi sur les Indiens qui inclut toutes les femmes.
Oui.
Et donc c'est très avant-gardiste comme proposition parce qu'il n'y a pas beaucoup de militantes féministes qui sont sensibles à la cause autochtone à ce moment-là, au Québec en tout cas.
Oui, tout à fait. Elle sera d'à peu près tous les combats, puis même à un âge assez avancé. On l'a vu dans la rue pour s'opposer à la guerre en Irak.
Absolument.
Au début des années 2000. Elle meurt finalement en mars 2012 à l'âge vénérable de 93 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui reste de l'héritage de Madeleine Parent? Parce qu'on connaît le nom, mais on la connaît peu en même temps.
Hein? Absolument.
Connue, mais pas connue.
André Lévesque dit d'elle qu'il a bien connue. André Lévesque, comme d'autres féministes, disait que c'était une femme entêtée qui n'abdiquait pas, qui a été hantée par cette question du communisme. André Lévesque, selon elle, Madeleine Parent n'était pas nécessairement une communiste, mais elle était une militante vraiment syndicale. C'est une grande militante et en effet, il y a beaucoup de reconnaissances qui lui ont été attribuées, le prix de la Saint-Jean, des doctorats honorifiques. Elle a des parcs qui ont été nommés en son nom. Elle est l'objet d'études importantes de André Lévesque, justement, de Marcel Fournier. Mais elle reste très peu connue et je suis très contente de pouvoir faire
grâce à vous,
notre
on la
petite
davantage.
Contribution
ben oui, petite
ici.
Contribution,
mais
oui.
C'est grâce à vous aussi d'avoir choisi de parler d'elle. Je pense qu'elle reste encore relativement méconnue du grand public.
Oui.
Je pense qu'elle est connue dans les milieux de gauche, des milieux engagés. Mais là aussi, le fait qu'elle soit transfuge, hein, d'une certaine manière, elle est transfuge de classe.
Transfuge de classe,
elle
ben
est
oui.
transfuge de langue.
Oui.
Elle parle les deux langues. Alors, c'est une personnalité complète et complexe et je pense qu'on gagne à la connaître plus.
Tout à fait. C'est Françoise David, à sa mort, hein, qui a bien résumé, Françoise David, anciennement de Québec solidaire, qui disait de Madeleine Parent, c'est Michel Chartrand, mais sans les sacres. Hein.
Oui,
c'est peut-être un peu ça, en tout cas, on l'a entendu. La façon de s'exprimer n'est pas la même, mais la conviction, probablement. Mon invité, je rappelle, Yolande Cohen, elle est historienne, professeure à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'aujourd'hui. De l'histoire. Ici Maxime Coutier, là-dessus, bonne soirée. À une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.